Chapitre 6. Cantonnant une scène qui sans doute affectera tous nos lecteurs. Monsieur Jones ne ferma pas les yeux pendant la première moitié de la nuit. Ce n'était pas qu'il fût aucunement affecté du manque de parole de Lady Bellaston. Ce n'était pas même Sophie qui était à la cause actuelle de son insomnie, quoique le plus grand nombre de celles qu'il éprouvait dût être mise avec justice sur son compte. Dans le fait, le pauvre Jones était un des plus excellents hommes qui eût jamais existé. Il avait dans le cœur toute cette faiblesse qu'on nomme compassion, et qui constitue cette imperfection de caractère, si distincte de cette noble fermeté d'esprit qui, pour ainsi dire, fait tourner un homme sur lui-même et, comme une boule polie, le met en état de rouler dans le monde sans être une seule fois arrêté par les malheurs qui arrivent aux autres. Il ne pouvait donc s'empêcher de compatir à la situation de la pauvre Nancy, dont l'amour pour M. Nightingale lui paraissait si visible qu'il était étonné de l'aveuglement de sa mère, qui plus d'une fois la veille lui avait fait remarquer à lui-même l'extrême changement du caractère de sa fille, dont la vivacité et la gaieté s'étaient, disait-elle, changées tout à coup en tristesse et en mélancolie. Cependant, le sommeil triompha enfin de toutes les résistances, et alors, comme s'il eût été réellement une divinité, ainsi que les anciens l'imaginaient, et une divinité offensée, il parut jouir d'une conquête qu'il avait si chèrement achetée. Pour parler simplement et sans aucune métaphore, M. Jones dormit jusqu'au lendemain matin 11 heures, et serait peut-être demeuré beaucoup plus longtemps dans cette paisible situation s'il n'en eût été tiré par un bruit violent. Il appela Partridge, qui, interrogé sur ce qui en était la cause, répondit « Oh, monsieur, il vient de s'élever là-bas un orage terrible. Miss Nancy a des convulsions, son autre sœur et sa mère pleurent et se lamentent toutes deux auprès d'elle. » Jones témoigna tant de douleur à cette nouvelle, qu'à dessein de le rassurer sans doute, Partridge ajouta avec un sourire qu'il croyait bien que la jeune personne n'était pas en danger de mourir, car Suzanne, c'était le nom de la servante, lui avait donné à entendre qu'il n'y avait rien dans tout cela que de fort ordinaire. En un mot, continua-t-il, Miss Nancy a eu envie d'en savoir autant que sa mère, voilà tout. Elle était un peu affamée, à ce qu'il paraît, et elle s'est mise à table pour dîner avant que le bénédicité fût dit, en sorte qu'il y a un petit enfant de plus à envoyer aux enfants trouvés. « Laisse-la, je t'en conjure, tes stupides plaisanteries, lui dit Jones. Peux-tu trouver quelque sujet de rire dans le malheur de ces pauvres gens? Va trouver sur le champ Mrs. Miller, et dis-lui que je lui demande la permission. Non, demeure. Tu ferais quelque sottise. J'y veux aller moi-même. Aussi bien, elle m'avait invité à déjeuner avec elle. » Il se leva aussitôt et s'habilla le plus vite qu'il put. Pendant qu'il faisait sa toilette, Partridge ne put s'empêcher, malgré le reproche le plus sévère, de lâcher encore à ce sujet quelques propos pleins de brutalité, qu'on appelle communément des plaisanteries. Jones ne fut pas plus tôt habillé qu'il descendit, frappa à la porte, et fut introduit par la servante dans le parloir extérieur, où il n'y avait pas plus de compagnie que de préparatifs pour le déjeuner. Mrs. Miller était avec sa fille dans l'appartement intérieur, d'où la servante rapporta à M. Jones que sa maîtresse le priait de l'excuser si elle lui manquait de parole, mais qu'il était arrivé un accident qui la mettait dans l'impossibilité d'avoir le plaisir de déjeuner ce jour-là avec lui, et qu'elle lui demandait pardon de ne pas l'en avoir fait prévenir plus tôt. Jones lui fit dire qu'il la priait de ne pas se tourmenter pour une bagatelle de cette nature, que le motif seul qui l'empêchait de déjeuner avec elle était ce qui le chagrinait sincèrement, et que s'il pouvait lui être de quelque utilité, elle pouvait lui donner ses ordres. Il avait à peine prononcé ces mots que Mrs. Miller, qui avait tout entendu, ouvrit précipitamment la porte et, s'avançant vers lui en versant un torrent de larmes, lui dit « Oh, Monsieur Jones, vous êtes, je vous assure, le plus excellent jeune homme qui ait jamais existé. Je vous remercie mille fois de la bonté que vous avez de m'offrir vos services. Mais hélas, monsieur, il n'est pas en votre pouvoir de sauver ma pauvre fille. » « Oh, mon enfant, elle est perdue pour toujours. »« J'espère, madame, dit Jones, qu'il n'y a pas d'homme assez infâme. »« Oh, monsieur Jones, il s'en est trouvé un. »« Celui qui a quitté hier ma maison a trahi ma pauvre fille et l'a perdue. »« Je sais que vous êtes un homme d'honneur. »« Vous avez un bon cœur, un cœur noble, monsieur Jones. Voilà, voilà la source des bonnes actions que je vous ai vu faire. Je vous dirai tout. D'ailleurs, après ce qui s'est passé, il serait impossible d'en faire un secret. Ce Nightingale, cet infâme barbare, a perdu ma fille. Elle est... Oh, monsieur Jones, ma fille est enceinte, et dans cet état, il l'a abandonnée. Voici, monsieur, sa cruelle lettre. Lisez-la, monsieur Jones, et dites-moi s'il existe un monstre pareil sur la terre. Chère Nancy, n'ayant pu me déterminer à vous dire de vive voix ce qui, je le crains bien, ne sera pas moins affreux pour vous que pour moi, j'ai pris ce moyen de vous informer que mon père exige absolument que je rende des soins à une jeune demoiselle, héritière d'une grande fortune, à laquelle il veut me... Je n'ai pas la force d'écrire ce mot détestable. Vous avez trop de raisons pour ne pas sentir que je ne puis en aucune façon me soustraire à son obéissance, et que, quel que soit mon amour pour vous, je me vois ainsi arraché de vos bras pour jamais. La tendresse de votre mère peut vous encourager à lui confier les malheureuses suites de notre amour, que l'on peut aisément laisser ignorer au public. J'aurai soin d'ailleurs de pourvoir à tout. Je ne vous abandonnerai pas. Je souhaite que vous souffriez moins que je n'ai souffert en apprenant cette nouvelle. Appelez tout votre courage à votre secours. Excusez et oubliez un homme que la perspective d'une ruine certaine a pu seul obliger à vous écrire cette lettre. Je vous conjure de m'oublier, mais seulement en qualité d'amant, car vous trouverez toujours le meilleur des amis dans votre fidèle, quoique malheureux, J. N. Quand Jones eut lu cette lettre, ils restèrent tous deux un moment sans parler et les yeux fixés l'un sur l'autre. Enfin, il prit la parole. « Je ne puis vous exprimer, madame, à quel point je suis indigné de ce que je viens de lire. Cependant, si vous me le permettez, je vous conseillerais de suivre en un point l'avis de l'auteur de la lettre. Considérez qu'il s'agit de la réputation de votre fille. « Elle est perdue, monsieur Jones, » s'écria-t-elle. « Elle est perdue aussi bien que son innocence. Elle a reçu la lettre devant une nombreuse compagnie et s'est évanouie aussitôt qu'elle l'a eue ouverte. En sorte que tous ceux qui étaient présents en connaissent le contenu. Mais la perte de sa réputation, toute cruelle qu'elle est, n'est pas encore le plus grand de ses malheurs. Je perdrai mon enfant, elle a déjà deux fois tenté de se détruire elle-même. Et quoique nous soyons parvenus jusqu'ici à l'en empêcher, elle jure qu'elle ne survivra pas à son honneur, et je ne pourrai moi-même survivre à un événement de cette nature. Que deviendra alors ma petite Betsy? Hélas, une petite orpheline sans appui. Et la pauvre petite malheureuse mourra aussi de douleur en voyant sa sœur et moi souffrir, quoiqu'elle n'en sache pas la cause. Car c'est bien la plus sensible, la plus excellente petite créature. Le cruel, le barbare nous a tous assassinés. Oh, mes pauvres enfants, est-ce donc là la récompense de toutes les peines que j'ai prises pour vous? Était-ce là que devaient aboutir toutes mes espérances? N'ai-je avec tant de joie soutenu toutes les douleurs, rempli tous les devoirs de la maternité? N'ai-je eu des soins si tendres de leur enfance? N'ai-je veillé avec une attention si soutenue à leur éducation? N'ai-je travaillé un si grand nombre d'années, en me refusant à moi-même les commodités de la vie, afin de leur amasser de quoi vivre, que pour perdre une de mes filles, toutes deux peut-être, par cet événement? Je vous proteste, madame, dit Jones, les larmes aux yeux, que je vous plains de toute mon âme. Oh, monsieur Jones, répondit-elle, vous-même, quoique je connaisse la bonté de votre cœur, oui, vous-même, vous ne pouvez vous faire une idée de ce que je souffre. La meilleure, la plus tendre, la plus soumise des enfants. Oh, ma pauvre Nancy, idole de mon âme, délice de mes yeux, orgueil de mon cœur. Oh, j'en étais en effet trop orgueilleuse, car c'est à cette folle, à cette ambitieuse espérance, fondée sur sa beauté, que je dois sa perte. Hélas, je voyais avec plaisir le goût que ce jeune homme avait pour elle. Je dus croire ses vues honorables, et je flattais ma sotte vanité de l'espérance de la voir un jour épouser un homme si fort au-dessus d'elle. Mille fois en ma présence, souvent même devant vous, il s'est appliqué à entretenir, à encourager cet espoir par les expressions les plus généreuses d'un amour désintéressé qu'il adressait toujours à ma pauvre fille, et qu'aussi bien qu'elle, je croyais sincère. Aurais-je pu croire qu'elles ne fussent que des pièges pour trahir l'innocence de mon enfant et pour nous perdre tous? À ces mots, la petite Betsy entra en courant. « Chère maman, s'écria-t-elle, pour l'amour de Dieu, venez près de ma sœur, car elle a encore un nouvel accès, et ma cousine ne peut pas la tenir toute seule. » Mrs. Miller y alla sur le champ, après avoir dit à Betsy de rester avec Jones. Elle le pria aussi de vouloir bien causer quelques minutes avec elle, en ajoutant avec l'accent le plus pathétique « Bonté du ciel, fais que je sauve au moins un de mes enfants. » Jones fit en conséquence tout ce qu'il put pour rassurer la petite fille, quoique dans le fait, il fut très vivement inquiet de tout ce que Mrs. Miller venait de lui raconter. Il lui dit que sa sœur serait bientôt rétablie, que si elle s'affligeait ainsi, non seulement elle la rendrait plus malade, mais qu'elle serait cause que sa mère le deviendrait aussi. « Je vous assure, monsieur, dit-elle, que pour toute chose au monde, je ne ferai rien qui pût les rendre malades. J'aimerais mieux mourir que de leur laisser voir désormais que je pleure. Mais ma pauvre sœur ne peut me voir pleurer maintenant, et je crains qu'elle ne soit bientôt plus en état de me voir pleurer. Mais je ne peux pas me séparer d'elle. Non, je ne le peux pas. Et puis ma pauvre maman aussi, que deviendra-t-elle? Elle dit qu'elle mourra aussi et qu'elle me laissera, mais je suis bien résolue à ne pas rester ainsi toute seule. Et n'avez-vous pas peur de mourir, ma petite Betsy? Lui dit Jones. Si, monsieur, répondit-elle, j'ai toujours eu peur de mourir, parce qu'il m'aurait fallu laisser ma maman et ma sœur. Mais je n'ai peur d'aller nulle part avec ce que j'aime. Jones fut si charmé de cette réponse qu'il embrassa l'enfant avec transport, et bientôt après, Mrs. Miller revint en disant qu'elle remerciait le ciel de ce que Nancy était tout à fait revenue à elle-même. À présent, Betsy, ajouta-t-elle, vous pouvez rentrer dans la chambre. Votre sœur est mieux et désire ardemment vous voir. Ensuite, elle s'adressa à Jones et lui renouvela ses excuses de lui avoir manqué la parole pour le déjeuner. « J'espère, madame, que je ferai un repas plus exquis que celui que vous auriez pu me donner, ce qui arrivera infailliblement si je peux rendre quelque service à une famille aussi tendrement unie que la vôtre. Mais quel que doive être le résultat de mes efforts, je suis résolu de tout tenter. Je suis fort trompé sur le compte de M. Nightingale, si, malgré ce qui s'est passé, il n'a pas dans le fond du cœur beaucoup de bonté et un très vif attachement pour votre fille. » Si cela est, comme je le crois, je ne doute pas qu'il ne soit vivement ému du tableau que je mettrai sous ses yeux. Faites tous vos efforts de votre côté pour reprendre courage et en inspirer à Miss Nancy. Je vais me mettre à l'instant à la recherche de M. Nightingale, et j'espère vous apporter de bonnes nouvelles. » Mrs. Miller tomba à genoux et appela toutes les bénédictions du ciel sur M. Jones, auquel elle s'adressa ensuite avec les expressions de la plus vive reconnaissance. Il sortit bientôt après pour aller chercher M. Nightingale, et l'excellente femme retourna consoler sa fille, qui reprit un peu de sérénité lorsque sa mère lui eut raconté ce qui venait de se passer entre Jones et elle. La scène se termina par un concert de louanges en l'honneur de ce bon jeune homme. Chapitre 7. Entrevue de M. Jones et de M. Nightingale. Mon avis est que le bien ou le mal que nous faisons aux autres retombe souvent sur nous-mêmes. Comme il est démontré que les cœurs généreux jouissent du bien qu'ils font, autant que ceux à qui ils le font, il y a aussi peu d'hommes d'un caractère assez diabolique pour être capables de faire du mal sans en souffrir eux-mêmes. M. Nightingale, au moins, n'était pas de ce caractère. Au contraire, Jones le trouva dans son nouveau logement, assis tristement au coin du feu et déplorant en silence la malheureuse situation où il avait mis la pauvre Nancy. Il ne vit pas plutôt paraître son ami qu'il se leva précipitamment pour aller à sa rencontre. « Rien ne pouvait venir plus à propos, lui dit-il, en le remerciant beaucoup, que cette obligeante visite, car je n'ai jamais été plus triste. » « Je suis fâché, répondit Jones, de vous apporter des nouvelles qui ne sont pas faites pour vous égayer, et qui, au contraire, sont encore plus affligeantes que toutes celles que vous pouviez attendre. » Cependant, il est nécessaire que vous les sachiez. Sans un plus long préambule, je viens donc vers vous, M. Nightingale, de la part d'une famille respectable que vous avez plongée tout entière dans un abîme de malheur. » M. Nightingale changea de couleur à ces mots, mais Jones, sans le regarder, continua son discours et lui peignit de la manière la plus vive la scène tragique dont j'ai instruit le lecteur dans le chapitre précédent. Nightingale n'interrompit pas une seule fois son récit, quoique dans plusieurs endroits son maintien décela une violente émotion. Mais quand Jones eut fini, il poussa un profond soupir et lui dit « Ce que vous me racontez, mon ami, m'affecte de la manière la plus sensible. Je ne connais pas de plus maudits accidents que la publicité donnée à ma lettre par cette pauvre fille. Sans cela, sa réputation eût été intacte et l'affaire aurait pu rester totalement secrète. Il n'en serait résulté rien de fâcheux pour elle par la suite. Il arrive tous les jours tant de choses semblables dans cette ville. Et si, quand il est trop tard, le mari soupçonne quelque chose, ce qu'il a de plus sage à faire, c'est de cacher ses soupçons à sa femme et à tout le monde. « Oh bien, mon ami, répondit Jones, rien de tout cela ne pourrait avoir lieu relativement à votre pauvre Nancy. Vous en êtes si passionnément aimé que c'est votre perte et non celle de sa réputation qui l'afflige. Voilà ce qui finira infailliblement par lui coûter la vie ainsi qu'à toute sa famille. « Oh, quant à cela, je vous proteste, s'écria Nightingale, que je l'aime de mon côté si passionnément que ma femme, quelle qu'elle puisse être, ne trouvera que bien peu de place dans mon cœur. Comment donc est-il possible, dit Jones, que vous pensiez à l'abandonner? Et que puis-je faire, répondit Nightingale. Demandez-le à Miss Nancy, reprit Jones vivement. Dans la situation où vous l'avez réduite, c'est uniquement à elle à déterminer la réparation que vous avez à lui faire. Son intérêt, et non le vôtre, doit être votre seule considération. Mais si vous me demandez à moi ce que vous devez faire, je vous répondrai que vous devez remplir l'attente de sa famille. La sienne, la mienne même. Oui, je vous le dis sincèrement, elle est devenue la mienne depuis la première fois que je vous ai vus ensemble. Ému de pitié, comme je le suis pour ces pauvres créatures, j'espère que vous me pardonnerez si je ne présume pas trop de l'amitié que vous avez bien voulu me témoigner. Mais votre propre cœur vous conseillera mieux que moi. Rappelez-vous seulement, si vous n'avez pas voulu, par votre conduite, donner à la mère ainsi qu'à la fille l'opinion que vous aviez des vues honorables. Et si cela est, quoiqu'il n'existe peut-être pas positivement de promesse de mariage, je laisse à votre bon esprit à prononcer à quel point vous êtes engagé avec elle. Non seulement, dit Nightingale, je suis obligé de confesser la vérité de tout ce que vous venez de dire, mais je crains bien encore d'avoir donné même cette promesse de mariage dont vous me parlez. Et après cet aveu, dit Jones, vous pouvez hésiter un moment? Considérez, mon ami, répondit Nightingale, la situation où je me trouve. Je sais que vous êtes un homme d'honneur, et que vous ne conseilleriez à personne d'agir en contradiction avec les lois qu'il prescrit. Quand je n'aurai pas d'autre objection à faire, puis-je, après la publicité donnée à cette fâcheuse aventure, pensez avec honneur à une pareille alliance. Sans doute, répliqua Jones, et le bon, le véritable honneur, qui n'est autre chose que la bonté, l'exige de vous. Mais puisque vous mettez en avant un scrupule de cette nature, vous me permettrez bien de l'examiner. Pouvez-vous avec honneur rester coupable d'avoir, sous de faux prétextes, trompé une jeune fille et sa famille entière? Et de lui avoir, par ce moyen, ravi son innocence? Pouvez-vous avec honneur être sciemment, volontairement, l'occasion, je dis plus, l'artificieux auteur de la ruine d'une créature humaine? Pouvez-vous avec honneur détruire la réputation, la paix et probablement la vie de cette créature, en compromettant même le salut de son âme? L'honneur vous permet-il de supporter la pensée que cette créature est une jeune fille sensible, sans appui et sans défense? Une jeune fille qui vous aime, qui vous adore, qui meurt pour vous, qui a placé toute sa confiance dans vos promesses, et a sacrifié à cette confiance tout ce qu'elle a de plus cher au monde? L'honneur peut-il supporter un seul instant le poids d'aussi cruelles réflexions? Je conviens, dit Nightingale, que la raison confirme tout ce que vous dites. Mais vous savez que l'opinion du monde y est si contraire, que si j'épousais une prostituée, quoiqu'elle ne l'eût été que par moi, Je serais honteux de me montrer. Oh, fille, monsieur Nightingale, dit Jones, pouvez-vous être assez peu délicat pour lui donner un nom aussi outrageant? Quand vous lui avez promis de l'épouser, elle est devenue votre femme. Elle a plus péché contre la prudence que contre la vertu. Et quel est ce monde devant qui vous seriez honteux de vous montrer? Ce ne sont que des gens vils, des sots et des libertins. Pardonnez-moi si je vous dis qu'un pareil scrupule ne peut procéder que d'une fausse honte qui accompagne toujours le faux honneur. Mais je suis bien assuré qu'il n'y a pas dans le monde un homme de bon sens, un homme de bien, qui ne se fasse honneur d'applaudir à une pareille action. Je veux cependant admettre que cette glorieuse approbation vous soit même refusée. Votre propre cœur, mon ami, ne vous applaudirait-il pas? Et les sensations vives, ravissantes, que nous fait éprouver la conscience d'une action honnête, noble, généreuse et bienfaisante, ne procurent-elles pas un plaisir plus vrai que les louanges non méritées d'un million d'hommes? Mettez de bonne foi cette alternative sous vos yeux. D'un côté, voyez cette pauvre fille, aussi misérable que sensible et confiante, rendant le dernier soupir dans les bras de sa malheureuse mère. Écoutez son cœur brisé et déchiré, soupirant votre nom, et pleurant plutôt qu'accusant la cruauté qui l'entraîne à sa destruction. Que votre imagination se représente la position de sa tendre mère, désespérée, perdant la raison ou peut-être la vie en perdant son aimable fille. Voyez son autre fille, cette pauvre orpheline sans appui. Et quand vous aurez un moment contemplé ce tableau, considérez-vous comme la cause de tous les malheurs de cette pauvre famille, de cette famille respectable et sans défense. D'un autre côté, considérez-vous comme les arrachant à leur souffrance momentanée. Figurez-vous avec quelle joie, avec quel transport, cette aimable créature volera dans vos bras. Voyez le sang ranimer la pâleur de ses joues, la vivacité renaître dans ses yeux languissants, le calme et le bonheur dans son âme brisée et abattue. Considérez les transports de sa mère, le bonheur de tous. Songez à cette petite famille rendue complètement heureuse par un seul acte de votre volonté. Songez à cette alternative, et sûrement, si je ne me trompe pas dans l'idée que j'ai de mon ami, il ne délibérera pas longtemps s'il doit laisser pour jamais ses infortunés plonger dans l'abîme, ou si par une résolution noble et généreuse, il les retirera de cet abîme de misère et de désespoir pour les élever au comble du bonheur. Ajoutez encore à cela une seule considération. Je veux dire la considération qu'il est de votre devoir d'agir ainsi, et que le malheur que vous éloignerez de ces pauvres gens est un malheur que vous leur avez causé vous-même volontairement. « Oh, mon cher ami, s'écria Nightingale, je n'avais pas besoin de votre éloquence pour me sentir ému. Je plains la pauvre Nancy du fond de mon âme, et je donnerais tout ce que je possède pour qu'il ne se fût passé aucune familiarité entre nous. Croyez même que j'ai eu à soutenir plusieurs combats avec mon amour, avant de pouvoir prendre sur moi d'écrire la cruelle lettre qui a causé tout ce malheur dans cette pauvre famille. Si je n'avais que mon inclination à consulter, je l'épouserais demain matin. J'en atteste le ciel, je l'épouserais. Mais vous pouvez aisément vous imaginer qu'il me serait impossible d'obtenir le consentement de mon père à un pareil mariage. D'ailleurs, il m'en propose un autre, et demain, par son ordre exprès, je dois être présenté à la personne qu'il me destine. « Je n'ai pas l'honneur de connaître votre père, dit Jones, mais supposons qu'on pût obtenir son consentement. Consentiriez-vous vous-même à adopter le seul moyen de sauver ces pauvres gens ?»« Avec autant d'empressement, répondit Nightingale, que j'en mettrais à courir après le bonheur, car je ne le trouverai jamais avec aucune autre femme. Oh, mon cher ami, si vous pouviez imaginer ce que j'ai souffert depuis 12 heures pour ma pauvre Nancy, je suis convaincu qu'elle n'absorberait pas toute votre pitié. L'amour m'entraîne uniquement vers elle, et s'il pouvait me rester encore quelques 20 scrupules d'honneur, vous les auriez entièrement détruits. Puisse-t-on obtenir le consentement de mon père, rien ne manquera à mon bonheur et à celui de ma Nancy. Eh bien, dit Jones, c'est une tâche que je suis résolu d'entreprendre. Il ne faut pas que vous vous fâchiez contre moi. Quel que soit le jour sous lequel je pourrais être obligé de lui présenter cette affaire, qui, soyez-en sûr, ne pourrait lui être longtemps cachée. Car les nouvelles de cette nature font des progrès rapides, quand une fois elles ont été divulguées, comme celle-ci l'a malheureusement déjà été. D'ailleurs, s'il en résultait quelque accident fatal, comme je le crains, en honneur, à moins qu'on ne le prévienne sur le champ, le public parlera hautement de vous d'une manière qui offensera infailliblement votre père, pour peu qu'il ait d'humanité. Si vous y consentez donc, dites-moi où je pourrai le trouver, je ne perdrai pas un moment. Vous, pendant que je m'occuperai de cette affaire, vous ne pouvez rien faire de plus généreux que d'aller voir cette pauvre fille. Et vous trouverez que je n'ai rien exagéré dans le récit que je vous ai fait du malheureux état de cette famille. » Nightingale consentit sur le champ à cette proposition, et après avoir indiqué à Jones le logement de son père et le café où il le trouverait vraisemblablement, il s'arrêta un moment et lui dit « Mon cher Tom, vous allez entreprendre une chose impossible. Si vous connaissiez mon père, vous ne penseriez pas à obtenir son consentement. Attendez, il y aurait un moyen. Supposons que vous lui disiez que je suis déjà marié. Il serait peut-être plus aisé de lui faire approuver une chose qu'il croira faite. Et sur mon honneur, je suis si affecté de ce que vous m'avez dit, et j'aime si profondément ma Nancy, que je voudrais presque que la chose fût réellement faite, quelles qu'en puissent être les conséquences. » Jones approuva beaucoup cette idée et promit d'en faire usage. Ils se séparèrent ainsi, Nightingale pour aller voir sa Nancy et Jones pour tâcher de rencontrer le père de son amie.